franceinter.fr.
Peut-on éduquer les enfants au plaisir de manger sain? Question posée aujourd'hui à la Une de la Science dans le cadre de notre journée spéciale Les Pieds dans le Plat sur France Inter.
Pour bien grandir,
oh là là, c'est haut.
Mange-moi. 1, 2, 3, 4, et 5 fruits et légumes par jour. Pour bien grandir,
ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré.
Facile.
Et le Centre des sciences du goût et de l'alimentation de l'INRA de Dijon organise de drôles de goûters, puisque dans le cadre d'une étude sur les comportements alimentaires des plus jeunes, une soixantaine d'enfants de 5 à 11 ans ont été conviés pour un buffet convivial sous l'œil attentif des chercheurs et même de leur caméra, Axel. On découvre ces résultats avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes en ligne avec Lucille Marty, doctorante au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes premier auteur de ces travaux. Expliquez-nous un peu comment se sont passés ces goûters et quelle était la particularité de ces petits moments avec les enfants.
Alors, comment se sont passés les goûters? Eh bien, les enfants arrivaient donc au laboratoire et chacun avait un petit buffet individuel composé d'une vingtaine de portions de différents aliments, donc contrastés selon leur qualité nutritionnelle. Donc, il y avait des bonbons, des gâteaux, mais aussi des fruits. Mmh. Et du coup, chaque enfant devait choisir pour son goûter 5 petites assiettes, hein, donc pour composer leur goûter, qu'ensuite ils allaient consommer tous ensemble. Et pendant qu'ils faisaient ces choix, donc nous n'étions pas derrière eux pour pas les influencer, mais par contre, des petites caméras espions, on est fait observer les choix qu'ils étaient en train de faire, ce qui nous a permis, a posteriori, d'analyser la qualité nutritionnelle de leur goûter.
Donc d'un côté, il y avait des plats sucrés gras et de l'autre, des produits considérés comme sains. Hein, c'est à
exactement,
peu près ça.
Exactement, c'est ça.
Alors ça, c'était la première partie de la fête. Ensuite, il y avait un petit jeu sur tablette, je crois.
Exactement, c'est ça. Donc ces petits jeux sur tablette, en fait, nous servaient à évaluer la dominance hédonique ou nutritionnelle des attitudes des enfants envers leur alimentation. Donc ces petits jeux, donc, ils étaient de deux sortes. Il y avait une petite tâche d'association où les enfants devaient choisir les deux aliments qui allaient le mieux ensemble. Donc ils pouvaient utiliser soit des critères de type plaisir hédonique ou des critères nutritionnels pour associer ces aliments en mettant ensemble, par exemple, deux aliments qui appartiennent au même groupe d'aliments. Et il y avait aussi un deuxième jeu où les enfants voyaient donc des aliments apparaître à l'écran et ils devaient classer ces aliments soit dans la catégorie « ça donne des forces », ça fait grossir, donc qui sont des considérations nutritionnelles, soit dans les catégories c'est miam, c'est beurre, donc des considérations plutôt hédoniques vis-à-vis de leur alimentation. Et nous avons donc enregistré les réponses de ces enfants à ces deux jeux.
Alors qu'est-ce que vous aviez derrière la tête, vous, en organisant tout ça?
Eh bien, nous, l'idée, c'était vraiment de regarder si le fait d'associer une alimentation plutôt au plaisir ou plutôt à la santé allait être un atout ou au contraire une menace pour effectuer des choix de bonne qualité nutritionnelle. Et voilà.
Donc, vous avez obtenu réponse à ces questions vraiment franches?
Eh bien, oui, puisque ce que nous avons observé, c'est que les enfants qui donnaient les réponses les plus nutritionnelles, en fait, aux jeux qu'on leur a fait passer, étaient finalement ceux, contrairement à ce que peuvent laisser penser les campagnes actuelles de santé publique, ben, c'était ceux qui effectuaient finalement les choix de moins bonne qualité nutritionnelle sur le buffet, puisqu'ils choisissaient en moyenne une portion de fruits en moins que les enfants qui, au contraire, avaient plutôt tendance à associer l'alimentation au plaisir.
Alors Lucille Marty, au départ, les enfants n'avaient aucune directive particulière, ils choisissaient ce qu'ils voulaient sur les petites tables,
c'est ça. Exactement, c'était « aujourd'hui, nous allons commencer par un goûter, donc vous avez chacun un buffet individuel, ouais. Vous pouvez choisir 5 aliments pour constituer votre goûter que vous allez ensuite consommer tous ensemble ». Donc ils choisissaient les aliments qu'ils allaient réellement manger, c'est-à-dire que ça reflétait vraiment ce qu'ils avaient envie de manger ce jour-là pour ce goûter.
Est-ce que vraiment ça veut dire qu'en moyenne, les enfants qui mangeaient le mieux, ceux qui aimaient manger le mieux, c'est ça, comme ça?
Alors, disons que les enfants qui ont choisi les goûters finalement de meilleure qualité nutritionnelle, ce sont ceux qui ont un rapport spontané à l'alimentation, qui est plutôt en lien avec le plaisir. Nous, ce qu'on pense qu'il y a derrière ces résultats, c'est que finalement les enfants qui ont été les plus perméables au message nutritionnel, lors de ce goûter où on leur proposait une offre qui était plutôt intéressante, des aliments qu'ils aiment, ces enfants-là se sont sentis, entre guillemets, autorisés à consommer des aliments plutôt gras sucrés. Et donc, du coup, il y a eu peut-être un phénomène chez ces enfants-là de désinhibition, chez les enfants qui, au contraire, déclaraient être les plus concernés par la nutrition. Donc, finalement, aborder l'alimentation sous l'angle du plaisir, ça permet de ne pas avoir de charge affective supplémentaire complémentaire pour ces aliments gras sucrés. Et en fait, lorsqu'on propose aux enfants des aliments qu'ils aiment, que ce soit des fruits ou des aliments gras sucrés, bien finalement, ils choisissent un peu de tout. D'autant plus qu'ils associent donc cette alimentation au plaisir.
Donc voilà. Spontanément, qu'est-ce qui ressort vraiment alors des choix des enfants? Est-ce qu'effectivement, chacun en choisit à la fois du gras et du sain, ou est-ce alors, qu'il y a une proportion plus représentée qu'une autre?
Alors, en moyenne, les enfants ont choisi deux items plutôt sains et trois items plutôt gras sucrés. Donc ça, c'est en moyenne. Et chez les enfants chez qui on a détecté les attitudes les plus nutritionnelles, bien ces enfants-là ne faisaient en moyenne qu'un seul choix de type fruit lors de ce goûter. Donc il y a quand même un item, enfin en fait on double la proportion de fruits choisis chez les enfants qui associent plutôt l'alimentation au plaisir.
En termes d'éducation et de sensibilisation des jeunes à l'alimentation, ça vous donne envie de faire évoluer les choses, de proposer nouvelles choses ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'éducation nutritionnelle chez l'enfant, ça passe avant tout par des messages plutôt d'ordre cognitif et nutritionnel. Et nous, ce qu'on pense, c'est que finalement, associer l'alimentation saine plutôt au plaisir, dans toutes ses dimensions, c'est dans une dimension à la fois sensorielle, c'est-à-dire d'appréciation du goût de ces aliments, mais aussi de représentation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça évoque, une fraise, un kiwi chez les enfants, bien peut-être qu'il y a des produits gras sucrés qui évoquent plus de choses, parce qu'ils sont marketés, donc il y a une charge affective supplémentaire. Donc redonner réenchanter en fait affectivement ces produits bons pour la santé, pour nous ça peut vraiment être un levier, donc le levier du plaisir. Et il y a aussi la commensalité, le fait de présenter ces aliments dans des contextes affectifs positifs qui peuvent tout à fait servir de levier pour augmenter la consommation des enfants de ces produits plutôt favorables à la santé.
Est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont pas choisi de bonbons du tout ou du sucré?
Il n'y en a aucun.
Ah oui,
tous les
même.
Enfants ont pris au moins un item gras sucré.
Ouais.
Mais et il y en a certains qui ont pris évidemment que des produits gras sucrés.
Ouais.
Mais tous les enfants ont pris au moins un produit gras sucré.
Catherine Jandel, vous voulez réagir?
Parce que j'aime pas du tout les bonbons.
Ah bon, c'est ça. Donc vous auriez pris que des fruits en bon élève modèle, voilà. Mais vous n'avez plus 5 ans, donc c'est fini. Merci beaucoup en tout cas Lucille Marty. Et vous êtes doctorante au Centre des sciences du goût et de l'alimentation de Dijon. Et on se faisait l'écho de cette expérience dans le cadre de cette journée sur France Inter consacrée à l'alimentation, les pieds dans le plat, et ça continue tout au long de l'après-midi et de la soirée. Merci à vous Axel, à demain.
Et à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, arrêtez de vous brosser la langue en même temps que les dents. C'est le message lancé par les spécialistes de l'association dentaire française réunie en congrès cette semaine. Se brosser la langue avec un équipement rugueux pourra en effet altérer sa surface et perturber l'équilibre des bonnes bactéries de notre tube digestif. Car sur la langue réside plus de 700 espèces de bactéries, pour certaines très bénéfiques pour notre santé. Sophie Myriam Dridi, médecin bucco-dentaire au CHU de Nice, interrogée par nos confrères de France Bleu, ajoute que le brossage de la langue, est une incitation commerciale, n'est pas nécessaire et c'est même une erreur à ne pas commettre. La force physique impressionnante des femmes préhistoriques, en étudiant la densité et la forme des centaines d'os des femmes à travers les âges depuis 7000 ans et en les comparant aux squelettes de femmes modernes, les chercheurs montrent que les femmes du néolithique et de l'âge de bronze étaient en moyenne 5 à 10 fois plus athlétiques que les sportifs professionnels d'aujourd'hui. Autre fait intéressant, au moment de l'apparition de l'agriculture, les chercheurs remarquent une augmentation significative de l'épaisseur des membres supérieurs, preuve que ces femmes étaient très certainement très active au champ, peut-être même plus que les hommes. Et puis du chat ou du chien, qui est le plus intelligent? Eh bien cette bataille des animaux de compagnie viendrait de trouver une réponse scientifique dans le Tennessee, où les chercheurs ont comparé la matière grise et la quantité de neurones dans le cortex chez une quinzaine d'animaux carnivores. Le chien, avec une moyenne de 530 millions de neurones, surpasse le chat qui en totalise 250 millions. Mais comme le précise le chercheur, ça n'est pas la taille qui compte, puisqu'à titre de comparaison, l'ours, qui a un cerveau 10 fois plus gros que celui du chat, a autant de neurones que le matou. Fait intéressant, le raton laveur, malgré son cerveau plus petit que celui du chat, a presque autant de neurones qu'un gros chien.